SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner ce mardi 2 juillet. Au sommaire de cette édition, on reviendra sur les suites législatives anticipées dimanche dernier. On parlera également de gastronomie et des spectacles avec la compagnie Carabos qui se produira tout le long du mois de juillet à Adélaïde. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi 2 juillet. À la une, un nouveau rapport révèle des liens inquiétants entre la violence domestique et le filicide, l'acte délibéré du parent qui tue son propre enfant. En France, mobilisation pour faire barrage à l'extrême droite après le succès inédit du Rassemblement national aux législatives anticipées. Et la Cour suprême des États-Unis accorde l'immunité à Donald Trump et les anciens présidents américains. Rapport historique de l'Organisation nationale australienne de recherche pour la sécurité des femmes, LANROSS, et l'Australian Domestic and Family Violence Death Review Network révèle des liens alarmants entre la violence conjugale et le filicide, l'acte délibéré d'un parent qui tue son propre enfant. Selon ce rapport, 97% des auteurs de ces crimes sont des hommes, alors que les femmes sont les principales victimes. Les enfants aborigènes et insulaires du détroit Torres, qui représentent 6% de la population infantile, représentaient 26% des victimes. Ce rapport met en lumière l'impact de la dépossession coloniale et des services de soutien inadéquats. L'avocat de Julian Assange a exhorté l'Australie à se joindre à d'autres démocraties comme le Royaume-Uni et les États-Unis pour demander la libération du propriétaire de médias emprisonné Jimmy Lai. Dans un discours prononcé hier devant le National Press Club, l'avocate des droits de l'homme Jennifer Robinson a également mis en garde contre le précédent dangereux créé pour le journalisme par les poursuites contre Julian Assange. L'homme d'affaires hongkongais Jimmy Lai est en prison depuis 2020, date à laquelle l'éditeur du journal Apple Daily a été accusé de collusion avec des forces étrangères et de publication de documents séditieux. Son fils, Sébastien Lai, est actuellement en visite en Australie et tente de faire connaître davantage cette affaire et est revenu hier sur les conditions dans lesquelles son père a été arrêté.
I still remember in August of 2020 when 15 to 20 police officers went in our home and took my father away and then took him and paraded him around his newsrooms. And so I ask that all of you here support my father, call for his release, and one day I might see him again.
Monsieur Lai a plaidé non coupable et risque une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité s'il est reconnu coupable. Le gouvernement albanaisé est accusé de traiter les agriculteurs avec mépris après l'adoption par le Sénat d'une loi visant à interdire les exportations de moutons vivants par voie maritime à partir de mai 2028. Malgré un intense lobbying de dernière minute, des agriculteurs et des propriétaires d'entreprises d'Australie-Occidentale pour bloquer la législation, les travaillistes ont forcé le passage du projet de loi au Sénat tard hier soir. La proposition signifiera la fin des exportations des moutons vivants par voie maritime dès le 1er mai 2028. Une enveloppe de 107 millions de dollars est prévue pour accompagner les agriculteurs concernés pendant une période transitoire. Écoutons la sénatrice Marine Farouki qui défend cette interdiction.
Too many animals have died and too many have suffered on the ships of misery for decades. Sheep which have been treated as cargo, not as the living, breathing, sentient beings that they are, have suffered for far too long. Governments have facilitated this trade for decades, condemning thousands upon thousands of animals to horrific deaths and unimaginable suffering.
Les défenseurs dénoncent une pratique dans le monde des affaires connue sous le nom de revêtement noir ou black cladding en anglais. Cette pratique se produit lorsqu'une entreprise non autochtone nomme des propriétaires ou des administrateurs aborigènes pour créer une entreprise frauduleusement qualifiée d'autochtone dans le but de remporter des contrats gouvernementaux réservés aux autochtones. Cela peut laisser les dirigeants d'entreprises aborigènes avec d'énormes factures fiscales lorsque ces entreprises font faillite et qui sont tenues responsables. Colin Briggs, un homme du peuple Yorta Yorta et électricien, a déclaré au programme Living Black de NITV que cela lui était arrivé après qu'on lui ait demandé de devenir directeur de la section indigène d'une entreprise d'électricité.
The debts totaled just a little bit under $730,000. So when I saw that, it felt like I was just in a deep dark hole.
Le gouvernement fédéral examine actuellement son programme d'approvisionnement auprès des Premières Nations et devrait relever la norme minimale de propriété. Ainsi, pour être qualifié de firme autochtone, les entreprises devraient avoir au moins 51% des parts de participation indigène. Et en France, après la réussite du Rassemblement national au premier tour des législatives de dimanche dernier, Jordan Bardella vise désormais la majorité absolue au second tour. Mais face au Rassemblement national, désigné comme adversaire prioritaire par la gauche et le camp présidentiel d'Emmanuel Macron, lors des tractations a sonné. Arrivé deuxième au scrutin, le nouveau Front populaire espère devancer le RN au second tour dimanche prochain. Explication Aurélien Devdoin, RFI.
De Marine Tondelier à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Olivier Faure, tous veulent y croire. Croire à la victoire du nouveau Front populaire grâce au Front républicain. Mais pour cela, il faudra cocher trois cases, toutes plus aléatoires les unes que les autres. La première, c'est d'obtenir un maximum de désistement du camp présidentiel, voire des républicains, dans les triangulaires opposant le NFP au Rassemblement national. Pour l'instant, le compte n'y est pas côté macroniste. Seule la moitié des circonscriptions concernées ont vu les candidats de l'alliance présidentielle se retirer. Et même dans le cas d'un désistement, rien ne garantit que les électeurs suivront, d'autant plus que bien peu de consignes de vote claires ont pour l'instant été émises. En 2022, un tiers des partisans d'Emmanuel Macron avaient fait barrage lors des duels NUPES-RN, pas sûr que ce taux soit aussi haut cette année. Enfin, il y a le dernier levier, celui de la participation, sur lequel comptent particulièrement les insoumis. Le Front républicain est aussi à chercher dans le tiers de Français qui ne s'est pas déplacé aux urnes dimanche, estime ainsi le coordinateur de LFI, Manuel Bompard.
À l'étranger, des universitaires se sont aussi penchés sur le succès inédit du RN aux urnes. Cécile Alduy, professeure à l'université de Stanford et chercheuse sur l'extrême droite, attribue la réussite du Rassemblement national à l'habileté de Marine Le Pen à remodeler l'image de son parti.
The National Front was ostracized from the political spectrum because of anti-Semitism and racism. And since she's been at the helm of the party, she has tried to smooth out the rhetoric, embrace a kind of democratic rhetoric, secularism, women's rights even. And so she has managed to change the image of the party. And since 2012, it's been a constant rise
in the ballot box and in the polls.
Et le footballeur français Jules Koundé s'est dit déçu de voir la direction que prend la France après la perspective de voir l'extrême droite accéder au pouvoir après son succès au premier tour des élections législatives. S'exprimant dans une conférence de presse dans la ville allemande de Düsseldorf après la victoire 1-0 de la France sur la Belgique lors du championnat d'Europe de football, Koundé a déclaré que le Rassemblement national de Marine Le Pen allait à l'encontre des valeurs françaises.
Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Évidemment, j'étais déçu. J'étais déçu de voir.
What did I think about it? I was disappointed. I was disappointed to see the direction our country is taking, with a huge support for a party that is against our values, the values of living together, respect, looking to divide Frenchmen and women. But I think there is a second round. It isn't over yet, and we can try and find those who haven't voted, and they need to get to the polls the second time around. That will be very important.
Et je pense qu'avec ça, ça sera important.
Et aux États-Unis, le président Joe Biden braque les projecteurs sur Donald Trump après sa performance inégale au débat présidentiel de la semaine dernière. À la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis garantissant l'immunité à Trump et à d'autres présidents contre toute poursuite, M. Biden affirme que le public a le droit de connaître le rôle de M. Trump dans l'insurrection du 6 janvier. Cela n'arrivera probablement pas avant les élections.
I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years. But any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law.
Et dans un geste de dissidence par rapport à cette décision, la juge Sonia Sotomayor a déclaré que la Cour suprême avait autorisé un président à devenir un roi au-dessus de la loi. Et pour clore ce journal, un coup d'œil météo. Perth, temps pluvieux, 19 degrés. Adélaïde, partiellement nuageux et 14. Melbourne, temps couvert, 12 degrés. Hobart, partiellement nuageux et 11 degrés. Même condition à Canberra avec 12 degrés. Averse à Wollongong et 15 degrés. Temps partiellement nuageux et 16 degrés à Sydney. Newcastle, averse et 17 degrés. 17 degrés, averse pour Brisbane également, tandis qu'à Cairns, le ciel est partiellement couvert avec un maxima de 27 degrés. Et il fait très beau à Darwin, temps ensoleillé avec un maxima de 33 degrés.
Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. sbs.com.au/french.
C'est toujours à l'écoute du programme en français sur SBS Audio. Il est 13h12. Après une courte pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse avec l'actualité sportive.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Tour de France. Hier, la troisième étape a été remportée par l'Érythréen Binyam Girmay, âgé de 24 ans. Une première pour un cycliste africain, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Ils ont vu l'histoire s'écrire sous leurs yeux à 70 km/h. Abraham et ses amis, érythréens de Turin, n'ont pas fini de chanter la gloire de Binyam Girmay, la fierté de tout un pays.
On est tellement fiers, tellement contents. Il a tout, Binyam, la force, la puissance, tout. C'est un grand héros.
Voilà justement le héros qui descend du podium, médaille au cou, sourire jusqu'aux oreilles. Binyam, sur un nuage.
Si vous voyez mon cœur, je dois être à plus de 200 battements par minute. Même quand il n'y a pas de coureur noir, le Tour de France est énorme chez nous en Érythrée. Surtout les étapes de sprint. Alors là, je n'imagine même pas. On a attendu longtemps pour avoir un coureur. coureur au départ. Maintenant, on gagne. C'est incroyable.
Incroyable et en même temps, on l'a vu venir. Binyam Girmay de ses premiers succès en Afrique à des débuts tonitruants en Europe avec une victoire d'étape sur le Giro il y a 2 ans. Aujourd'hui, la concurrence aussi applaudit ce phénomène qui rafraîchit l'image du cyclisme. Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis.
C'est un symbole, une bonne chose pour lui, d'abord pour son équipe et puis pour tout le cyclisme.
Ironie de l'histoire, un film sur le destin de Binyam Girmay vient de sortir, 7 ans de tournage, et il faudra peut-être réécrire la fin.
La 4e étape emmène les coureurs en France ce mardi après les périples en Italie. Un petit retour maintenant sur les 2 premières étapes de cette édition de 2024 avec 2 victoires tricolores. Samedi, Romain Bardet, à l'âge de 33 ans, a remporté la première étape et du coup, il avait pris le maillot jaune, comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI.
Les 206 kilomètres de Florence à Rimini ont bien plu à Romain Bardet, c'est le moins que l'on puisse dire. Il en avait rêvé toute sa carrière. Et pour le dernier de ses 11 Tours de France, à 33 ans, bientôt 34, Français a remporté l'étape inaugurale, 7 ans après sa dernière victoire d'étape sur le Tour. Et surtout, après avoir rejoint l'un de ses coéquipiers parti en échappée, il a fallu ensuite résister au retour du peloton des favoris. Le voilà, Bardet enfin récompensé, le résultat peut-être aussi d'un changement d'approche. Le grimpeur avait décidé cette année de tenter des coups plutôt que de tout miser sur la gestion au jour le jour pour viser le classement général. Écoutez l'analyse de Pierre Roland, ancien vainqueur d'étape à l'Alpe d'Huez et aujourd'hui consultant.
Magnifique, on n'attendait pas mieux pour son dernier tour et je pense que il n'a rien à perdre Romain, là. Il a juste à se faire plaisir et aujourd'hui il nous a montré que quand il se fait plaisir, bah, il tente des choses. Le déclic là qu'il a eu d'annoncer qu'il allait courir de cette manière, bah, voilà. On l'a aujourd'hui, la vraie version de Romain Bardet qu'on aurait peut-être pu avoir pendant des années, mais en tout cas il nous a régalé. Il est passé à côté de magnifiques succès, le titre de champion du monde, Liège-Bastogne-Liège. Enfin voilà, c'est un immense champion et là, voilà, de finir sa carrière, son dernier tour avec une victoire et le maillot jaune, je pense que c'est le minimum pour tout ce qu'il a fait pour nous, les coureurs français.
Et puis dimanche, un autre Français a réalisé l'exploit de gagner. Il s'agit de Kevin Vauclin, qu'on écoute avec Christophe Mallet, notre collègue sur place en Italie.
C'est complètement dingue. Hier j'étais au fond du saut, j'ai passé une semaine de ma vie difficile avec des déceptions. Même si j'avais à mon niveau au cheval de France, autour dessus j'étais pas bien, ça tue non plus. Ouais, et réussir à faire ça, bon s'en échapper, mais ouais, je suis vraiment content, on a eu la journée parfaite, on a vu que le peloton nous laissait partir. Je pense que c'est grâce à l'échappée qui a été capable au crise hier, ils ont dit on peut laisser en train d'échapper.
Tactiquement, vous avez extrêmement bien joué le coup avec Rodriguez qui était avec vous. Vous êtes parti au bon moment et ouais. Ciao.
Ouais, mais je pense que je vais remercier un grand moment Christiane qui a mis pas mal de puissance durant toute la course à faire les relais, à nous échapper et ensuite à contrôler, il était très fort. Et franchement, un grand merci. Et j'ai senti dans la bosse d'avant, quand Axel a accéléré, je suis venu au tempo, je pouvais attaquer en haut, mais j'ai dit c'est loin. Je vais faire ça dans la dernière bosse et voir où est-ce que je peux me situer. Et quand je suis sorti avec les Colibera et Abraham Sen, je savais que dans la bosse j'étais plus punchy qu'eux. J'ai dit c'est le moment. Et s'ils se retrouvent à deux, ils ont du mal à rouler. Donc c'était parfait.
À quel moment vous avez commencé à apprécier?
Tard, parce que je demandais tout le temps quel temps il y a. Je sais qu'ils peuvent attaquer très fort et rouler très fort, Abraham Sen, Olivera, et même les coureurs de l'échappée. Donc je suis toujours un peu méfiant, mais bon, je pense que mes qualités de rouleur étaient là, donc je n'ai pas du tout lâché. Et...
J'imagine que vous avez pas mal de rêves, mais celui-là,
Déjà, le rêve était déjà de participer au Tour de France. Et maintenant, j'arrive à gagner la 12e étape. Au début du Tour de France, je pense que ça va mettre dans une bonne spirale pour la suite. Et même pour l'équipe, c'est la première victoire d'Arcadie et d'Hôtel. Au Tour de France, je suis très très heureux de leur apporter la première victoire. Merci.
Et maintenant, décryptage de cette 2e étape avec Thomas de Saint-Léger, envoyé spécial de RFI.
Ça va être dur, je pense qu'aujourd'hui je vais me battre, mais je sais que c'est un épisode, donc je vais essayer d'en profiter de chaque minute.
Avec 15 petites secondes d'avance sur les favoris, une bataille annoncée sur les hauteurs de Bologne, Romain Bardet savait ses jours en jaune comptés, et pourtant, à l'arrivée, le Français perd sa tunique pour 6 secondes seulement.
C'est dommage, et à la fois, je vois pas ce que je peux faire de plus, donc très belle journée, j'ai eu aucun stress, j'en ai vraiment profité. C'est une expérience extraordinaire.
Un moment à part, un épisode, comme il dit, de 24 heures, partagé avec ses coéquipiers, en particulier Warren Barguil, camarade de chambrée.
On avait le casque jaune parce qu'on était la meilleure équipe hier, donc forcément c'est quelque chose de spécial et c'est toujours agréable de dormir avec le maillot jaune.
Avec un coureur référence aussi, devenu un peu plus samedi un modèle, une source d'inspiration pour ses jeunes compatriotes. Kevin Vauclin, 23 ans, vainqueur à Bologne pour son deuxième jour sur le Tour de France.
Un exemple de professionnalisme et de mec qui lâche rien. Et hier, j'étais tellement heureux pour lui qu'il gagne et qu'il ait ce maillot jaune qu'il a tant convoité des années. Et voilà, j'ai essayé de limite suivre son exemple aujourd'hui et saisir l'opportunité comme il a pu la saisir hier.
Kevin Vauclin d'ailleurs, salué, félicité par Bardet juste après l'arrivée. Il a de la classe, ce Romain, empereur d'un jour, grand seigneur toujours.
On passe maintenant à l'Euro de foot avec hier deux matchs. La France qui s'est qualifiée pour les quarts de finale contre la Belgique, 1-0. Antoine Grenier pour RFI.
Une dernière Marseillaise partie des tribunes lancée par le COP des supporters français pour fêter une histoire qui se répète. Comme face à l'Autriche pour leur entrée dans l'Euro, les Bleus s'imposent 1-0 à la Mercourt-Spiel Arena sur un but adverse contre son camp. Au lieu de Vauber, cette fois, l'infortuné se nomme Yann Vertonghen sur une frappe de Randal Colomy. Et ça suffit au bonheur d'Antoine Griezmann.
Mais parce qu'il m'a dit ouais, que 1-0. Il veut quoi? Il veut gagner tous les jours 4-0. Les Belges m'ont beaucoup plu, m'ont pas impressionné, mais presque, par l'effort qu'ils ont fait tous ensemble. Voilà, on a encore une fois, on a été solide et Randal qui a fait la diff quand il est rentré, donc tant mieux pour nous.
Des Bleus pourtant toujours aussi maladroits, un tir cadré sur 20 tentatives et le but lui-même arrive sur une frappe qui ne prenait pas la direction du but. Chanceux, à défaut d'être efficace, les Français ont écœuré les Belges à l'image de leur capitaine Kevin De Bruyne.
Quand tu perds, c'est décevant, mais bien sûr, quand tu regardes, pour moi, l'équipe il a tout donné, bien sûr, tu peux perdre contre la France. La manière, c'était bien d'abord, on peut pas dire grand-chose.
Des Bleus qui, sous Didier Deschamps, disputeront leur cinquième quart de finale sur six grandes compétitions.
Et dans l'autre match, le Portugal est en quart de finale aux dépens de la Slovénie. L'Allemagne, elle, s'est qualifiée le week-end dernier pour les quarts de finale en battant le Danemark 2-0. À nouveau, Antoine Grenier pour RFI.
Les Allemands pourront se satisfaire d'avoir bravé les éléments. Malgré les éclairs et le tonnerre du ciel de Dortmund, malgré l'interruption de 25 minutes pour éviter un orage de grêle, malgré surtout un statut de favori à honorer sur le terrain, et malgré un 11 de départ remanié, les joueurs de Julian Nagelsmann ont pris l'avantage en seconde période grâce à Havertz sur penalty, puis Jamal Musiala. Mission accomplie, même pour les habituels remplaçants, à l'image de Nico Schlotterbeck, le défenseur central.
Je n'ai pas toujours été très performant avec l'équipe nationale parce que je me suis toujours mis beaucoup de pression. Je suis d'autant plus heureux de ne pas avoir encaissé de but. Nous avons vraiment bien défendu, pratiquement rien laissé passer. Je pense qu'on a fait un bon match et qu'on a été récompensé par ces deux buts. Je suis vraiment très heureux.
Les Danois, eux, ont vu le ciel leur tomber sur la tête. Un pénalty concédé sur une main d'Andersen, le défenseur central, dont le but, quelques instants plus tôt, avait été refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Thomas Delaney, le milieu de terrain, regrettait aussi les occasions ratées de son équipe.
On a beaucoup donné, on a beaucoup souffert aussi aujourd'hui. Il faut être honnête, ça a été un match difficile, on s'y attendait. Mais j'aurais aimé qu'on soit plus précis sur ce dernier geste. Mon ballon vers Rasmus qui doit être un peu meilleur. Frappe de Rasmus qui elle aussi doit être un peu meilleure. C'est tout. Ce sont ces détails qui décident du sort d'un match.
Et la Suisse est aussi en quart de finale. Elle a sorti l'Italie, tenante du titre 2-0. Dimanche, l'Espagne s'est qualifiée aux dépens de la Géorgie 4-1. Et puis l'Angleterre a battu la Slovaquie 2-1. Reportage Sarah Loubacouche et Arnaud Pontus pour RFI.
L'Espagne, elle, a encore été royale face à la Géorgie. Une victoire 4-1, royale et revancharde. Pourtant, totale maîtrise dès le coup d'envoi. La Roja s'est laissée surprendre. Elle a offert l'ouverture du score à la Géorgie avec un contre son camp de Robin Lenormand qui a réveillé le courroux espagnol et a ensuite infligé à cette sélection espagnole 4 buts aux Géorgiens.
Ouais, victoire 4-1 donc pour l'Espagne face à la Géorgie. Cette équipe géorgienne qui voit ainsi
son épopée européenne dans cet Euro stoppée net.
Oui, puisque la sélection, cette jeune sélection disputait son tout premier Euro, nation surprise de la compétition, mais qui peut sortir la tête haute. Oui, elle n'ira pas en quart, mais elle a déjoué les pronostics, hein, déjà en sortant de son groupe et en battant le Portugal 2-0. Suite de l'aventure pour les Espagnols, ce sera vendredi en quart de finale face à l'Allemagne, un choc qui lui s'annonce impérial.
Les Anglais, eux, se sont qualifiés pour les quarts de finale face à la Slovaquie. Les Anglais l'ont emporté 2-1.
Oui, sans aucune majesté en revanche, hein, les True Lions qui sont revenus de nulle part. Ils ont plus que frôlé l'élimination face à la Slovaquie. Les finalistes du dernier Euro anglais menaient au score jusque dans les toutes dernières minutes du jeu. Ils se sauvent dans le temps additionnel. Égalisation à la 95e grâce à un splendide retourné instinctif de Jude Bellingham, suivi d'un but d'Harry Kane qui a donc offert la qualification aux Anglais. Bellingham, sauveur d'une Angleterre en souffrance et qui savoure ce but historique.
Oui, c'est probablement le but le plus important de ma carrière, ou dans les environs au moins. Il y en a quelques autres de beaux qui veulent dire beaucoup pour moi. Mon premier but avec Birmingham, avec Dortmund ou pour Madrid, c'est toujours spécial. Mais je pense que ce but fait partie du lot. Vous savez, il est tellement impactant aujourd'hui. Si je ne marque pas, l'humeur n'aurait pas du tout été la même. Donc oui, ce but-là est tout en haut.
Les hommes de Gareth Southgate qui vont retrouver la Suisse de l'Italie. Ce sera samedi en quart de finale.
La 73e édition du championnat mondial de pétanque, c'est à Marseille depuis dimanche. 12 000 participants sont sur place, dont ceux du Bénin. Reportage Siam Spencer pour RFI.
Dans les allées du parc Borély, un bruit des plus provençales se mêle au chant des cigales. Provençal, mais pas que. Parmi les équipes inscrites au Mondial, il y en a une qui se fait remarquer, c'est celle du Bénin, dont fait partie Marcel Biot.
Mais on est prêts, on est venus pour ça normalement. Donc, quelle que soit l'équipe qu'on a en face, on va faire de notre mieux et je suis sûr qu'on va gagner.
Dans l'équipe également, Marcel Bétablé, champion du monde de pétanque 2023 en doublette, pour qui la journée a bien commencé.
On s'est régalé dès la première à 13-2. Bon, c'était pas une très grande équipe en face, mais il faut jouer quand même. Il faut jamais sous-estimer une équipe. Il faut finir de gagner avant d'être sûr de soi-même.
Bien loin des ruelles de Cotonou, il a commencé à jouer il y a 12 ans. Ce Béninois de 27 ans a su se faire un nom dans le monde de la pétanque.
Il y a même des inconnus que je ne connais pas, mais eux, ils me connaissent de nom, mais ils ne m'ont jamais croisé. Dès qu'ils me voient, ils sont contents. Oh là là, le Béninois, il est là et tout. Moi-même, ça fait un plaisir.
Samuel, venu de La Réunion, suit son parcours depuis plusieurs années.
Oui, c'est un très grand joueur. Nous, à La Réunion, on est fans des joueurs comme ça. Nous, on regarde toujours la télé. Je l'admire beaucoup. Lui, Marcel Biot. C'est des grands champions.
Ça fait partie des personnes contre qui vous ne voulez pas tomber ?
Ouais, plus tard mieux c'est.
La compétition qui se poursuit jusqu'à mercredi où Samuel espère assister à une finale avec, en haut du podium, son équipe béninoise favorite.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton.
Et c'était Paris Métèque, une chanson de Gaël Lafaye. Vous êtes toujours à l'écoute du français sur SBS Audio. Et toujours au programme, ce mardi après-midi, on parlera de gastronomie. On va retrouver Audrey Bourget en conversation avec Marie Williams, propriétaire de la boulangerie Le Péché Gourmand. Je me suis aussi entretenu avec Christophe Brichetot et Christian Cuomo de la compagnie Carabos, qui présente son spectacle de feu pendant tout le mois de juillet à Adélaïde. Présent, une courte pause et après la pause, on revient sur les suites des législatives anticipées en France. La France va-t-elle avoir un gouvernement d'extrême droite le 8 juillet? Et quelles sont les conséquences sur l'Union européenne? Eh bien, ces questions sont au cœur des discussions entre Juliette Piotrowski et Anne Katner de RFI, qui sont entretenues avec Bertrand Badier, politologue spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po.
La
La France va-t-elle avoir un gouvernement d'extrême droite le 8 juillet prochain, au lendemain du premier tour des législatives où le Rassemblement national a fait un score historique de près de 33%, c'est l'heure des désistements dans les circonscriptions pour tenter de faire barrage au parti de Marine Le Pen. La coalition de gauche est arrivée en deuxième position avec 28% des suffrages et la majorité sortante est loin derrière. Pour toute la presse européenne, le pari d'Emmanuel Macron avec ses élections anticipées est raté et lui affaibli, et les conséquences de cette élection sur l'Union européenne sont scrutées de près. Pour analyser tout ça, Bertrand Badi, politologue, spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po, était l'invité d'Anne Kantner. Écoutez.
Effectivement, l'Europe est un des grands chapitres qui se distingue par son incertitude aujourd'hui. Dans le cas du Rassemblement national, on a assisté depuis un certain temps à un très curieux dégradé. On partait de très haut, de très bas, ça dépend des goûts, c'est-à-dire d'une vision de l'Europe qui était négative, voire destructrice. Il a été évoqué un temps l'hypothèse du Frexit, mais sans aller jusque-là, on a évoqué l'hypothèse d'une sortie de l'euro, et sans aller même jusque-là à des demandes, des exigences de réformes profondes des institutions européennes de manière à renforcer la souveraineté de la France. Maintenant, le propos est beaucoup plus prudent. Il reste, et tout le monde le sait bien, qu'on ne peut pas faire progresser l'Europe sans aimer l'Europe, c'est-à-dire sans véritablement investir dans son identité même l'idée que l'avenir, c'est celle de l'intégration régionale. Ça, le Rassemblement national n'en veut pas, c'est une rupture dans l'histoire de la Ve République, et je dirais même dans l'histoire de la République française depuis qu'elle est partie au traité de Rome de 1957. Donc, que va-t-il se passer dans cette situation ? Eh bien, trois éléments explosifs. Premier élément, une négociation avec un président de la République qui reste un fervent défenseur de l'Europe et qui n'a cessé d'appeler à une refondation de l'Europe. Ce que sortira de cet affrontement, nul ne le sait. Le deuxième affrontement, il est à l'intérieur du Conseil européen. Vous savez que le Conseil européen est quand même l'institution clé, fondamentale, pivot des institutions européennes. Et là, il va falloir s'attendre à quelque chose qu'on avait un peu oublié depuis un certain temps, qui sont les nuits de blocage, c'est-à-dire où il deviendra très difficile à les partisans, de fervents partisans de l'Europe, je pense en particulier à l'Allemagne, mais on pourrait aussi trouver bien d'autres partenaires, mais je dis l'Allemagne à cause du couple franco-allemand, il sera très difficile de trouver un consensus. Et puis, il y a plus surprenant, un troisième blocage, qui est les nationalistes européens. Même s'il s'agit de la même famille, c'est une famille qui est extrêmement divisée. On est sur le point d'avoir trois groupes parlementaires européens d'inspiration nationaliste, puisque Viktor Orban doit prendre l'initiative d'en créer un nouveau.
C'est ce qu'il a proposé hier.
Voilà. Et on sait par ailleurs que la sensibilité des différents partis nationalistes européens, que ce soit Madame Meloni en Italie, que ce soit les formations d'extrême droite associées au pouvoir en Europe du Nord, ou que ce soit les formations du même type relevant de l'Europe orientale, sont différentes.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était Vivant, une chanson de Malik Judy sur les antennes de SBS Audio, et vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de ce mardi 2 juillet. On va passer à une courte pause et après la pause, on retrouve Audrey Bouger en conversation avec Marie Williams, propriétaire du Pêché Gourmand.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Je suis avec Marie Williams, qui est copropriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Pêché Gourmand à Creswick, une petite ville près de Ballarat dans le Victoria. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, racontez-moi d'abord un peu d'où vous venez. Je crois que vous avez grandi dans une famille d'agriculteurs en Vendée.
Oui, je viens dans une famille de... Mes parents avaient une ferme de cochons, de porcs, pardon. Et j'ai grandi dans un petit village juste en dessous de Nantes, à côté de Nantes, donc dans le sud de la Bretagne.
Et qu'est-ce qui vous a amené en Australie?
J'ai rencontré mon mari en voyageant au Canada. Et on est arrivé en Australie en 2005. Et on était d'abord à Canberra pendant plusieurs années, ensuite Sydney. Et puis on venait pas très loin de Ballarat à Beaufort voir la famille de mon mari en vacances. Et on aimait beaucoup la région. Et un jour, on a décidé de déménager sur Ballarat. Et on est tombé amoureux d'un petit magasin, d'un tout petit magasin à Creswick qui était à vendre quand on a déménagé dans la région. Et c'est comme ça que ça a commencé, comme ça qu'on est parti.
Et puis, donc, Paul, il est boulanger ou pâtissier de formation?
Oui, Paul est boulanger-pâtissier, oui.
Vous avez choisi, donc, Creswick, qui est dans le Victoria. Puis, vous avez ouvert le pêché gourmand il y a combien de temps?
On a ouvert en 2012, donc il y a 14 ans. 12 ans, pardon.
Je regardais votre menu, c'est très français, on s'en parlait. Bon, vous avez des classiques que les gens connaissent ici, les croissants, les madeleines, mais aussi, oui. Vous avez un gâteau basque, brioche vendéenne, Queen Amand. Parlez-moi un peu de votre menu. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez choisi ces choses-là?
J'ai grandi dans une famille où ma maman cuisinait beaucoup, mais d'aller à la boulangerie, pâtisserie, c'était toujours une occasion spéciale parce que c'était des choses qu'elle faisait pas à la maison. Donc, on a essayé de recréer cette ambiance de la petite boulangerie de village français où on avait bon, le pain, bien sûr, enfin, toutes les baguettes, les différents pains, mais aussi toutes les pâtisseries comme les croissants, Le Queen Amand vient de Bretagne et c'est quelque chose que moi j'ai grandi avec mais qu'on ne trouvait pas ailleurs en France à l'époque. Il fallait vraiment venir dans cette région pour avoir ça. Et la plupart de ce qu'on fait, c'est comme ça, c'était d'essayer de trouver ces spécialités locales qu'on n'allait pas avoir d'un endroit à un autre en France parce que c'est très régional. Mais nous, on essaie de ramener un peu le tout, des choses différentes, tout dans le même endroit. En restant sur des choses très simples, très classiques, et très traditionnel.
Qu'est-ce qui est le plus populaire chez vous?
Ça dépend des jours, ça dépend des moments. En ce moment, je dirais le Queen Amand se vend très bien, les cannelés pour les pâtisseries. Et dans les gâteaux, ça dépend, oui, ça dépend un petit peu des jours. Très souvent, le millefeuille, la tarte au citron restent les classiques que tout le monde connaît. Mais certains jours, ça va être les religieuses, les éclairs. Ça dépend vraiment des moments.
Est-ce que les choses ont beaucoup changé au cours des 12 dernières années, justement? Est-ce que vos clients connaissent un peu mieux maintenant ce que vous faites? Est-ce que les gens connaissent plus les pâtisseries françaises?
Oui, disons qu'au niveau des pâtisseries et des gâteaux, ça n'a pas changé énormément. On a une grosse base de clientèle très régulière, donc ils nous connaissent depuis des années, donc ils viennent tous les jours ou toutes les semaines pour le gâteau ou la pâtisserie qu'ils veulent. Après, il y a les touristes qui ne savent pas forcément ce qu'on fait autant, mais ça a changé à ce niveau-là. On a moins de problèmes avec les touristes dans le sens où maintenant, je pense qu'ils regardent peut-être un peu plus sur Internet les choses comme ça pour savoir ce qu'on fait avant de venir. Par rapport à il y a déjà 10 ans, où il y avait peut-être un peu moins de ça et ils arrivaient en se disant que on allait faire la grosse demande qu'on avait il y a des années, c'était le croissant jambon fromage. Où ils veulent la pièce de jambon ou le morceau de jambon, le morceau de fromage dans le croissant et passer au micro-ondes. Parce que ce qu'on ne fait pas du tout en France, c'est que nous, on ne fait pas. Quoi. Donc, c'était un des gros challenges, j'allais dire, qu'on allait avoir et qu'on a toujours par moment, mais beaucoup moins que ce qu'on avait il y a 10 ans. C'est plus à ce niveau-là, c'est plus au niveau des les baguettes sandwich ou les sandwich toastés qu'on a un peu plus... de problèmes à faire comprendre aux gens ce qu'on fait, c'est très traditionnel. On ne fait pas la baguette toastée parce que ça ne se fait pas en France, des choses comme ça.
Et puis vous, est-ce que vous avez un favori en ce moment? Qu'est-ce que vous aimez le plus manger au pêché gourmand?
L'hiver, moi, j'aime beaucoup les croissants aux amandes au chocolat. Et sinon, je serais toujours classique ou partielle sur un éclair ou une religieuse au chocolat. Ça a toujours été mon gâteau préféré. Et puis les sandwichs, j'aime toujours moi le croque-monsieur. Le croque-monsieur qu'on fait est très traditionnel d'où je viens. avec la crème fraîche, le jambon de Vendée et le gruyère, plutôt que la façon parisienne, j'allais dire, de les faire avec la béchamel et le jambon de Paris. Nous, on les fait avec ce jambon. Ce qu'on appelle jambon fumé chez moi, c'est le jambon de Parme, quoi, le jambon de Bayonne. Et donc là, du coup, on fait toaster donc dans une. Il y a des mots français qui viennent pas. sandwich press.
Ça va, je pense que nos éditeurs sont habitués, les Français qui habituent tout le monde, hein, on parle du français à l'anglais, il n'y a pas de problème.
L'anglais, c'est bizarre, ouais. Donc, ouais, qu'on fait donc, dans la sandwich press plutôt qu'à la béchamel au four, quoi.
Je disais que vous utilisez du beurre français, est-ce que c'est toujours le cas?
Ah, du beurre, oui. Mais tout le beurre, tous les fromages qu'on utilise, le chocolat. Ouais. On utilise le beurre Lescure. Mon mari en a essayé plusieurs marques de beurre français, mais avec les croissants, il trouve que c'est Lescure qui marche le mieux. On a essayé des marques australiennes. La façon dont il fait ses croissants, ça marche pas très bien.
Merci beaucoup, Marie. Vous me donnez envie de planifier un week-end dans la région de Ballarat, de Creswick. Merci.
Merci. C'est pas très loin, il faut venir.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai le plaisir de recevoir Christophe Brichteau et Christian Cuomo de la compagnie Carabos en marge de leur apparition dans Illuminate Adelaide, une célébration qui propose des nuits animées, des lumières éclatantes et des grandes aventures dans cette période hivernale. Christophe et Christian, bienvenue sur SBS French.
Merci, bonjour à tous.
Bonjour.
Parlez-nous de ce spectacle que vous allez présenter dans Illuminate Adelaide.
Nous proposons une installation de feu dans le jardin botanique. Donc une installation de feu, qu'est-ce que c'est ? La compagnie Carabos travaille depuis une trentaine d'années sur toutes les formes de feu. Donc on utilise soit des bougies, ce qu'on appelle des pots de feu, soit du charbon, soit du gaz. Et nous avons construit beaucoup de machines sur lesquelles sera disposé le feu. Et nous proposons une balade à travers les flammes pour tout le public. Une balade libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens de visite. Chacun fait ce qu'il veut, va où il veut, guidé simplement par les flammes.
Waouh ! Est-ce que c'est pas dangereux ?
Non, c'est pas du tout dangereux. Notre système de bougies, ce sont des pots en terre cuite. Et tous les feux sont contenus dans un récipient, quoi, dans un pot, ou dans une machine, ou dans une masque. Donc, il n'y a pas aucun risque de propagation. Et le fonctionnement, on fait une multitude de petits points de feu.
Oui.
Et ça donne un côté plutôt apaisant, au contraire. Très calme et apaisant, et pas du tout excitant.
D'accord. On dit qu'il faut être... compagnie est célèbre pour ses installations de feu. Vous faites des spectacles, des rues à géométrie variable depuis 88, composées de plasticiens, de scénographes, de constructeurs, de comédiens, de musiciens et de metteurs en scène. Tout un monde. Est-ce que vous avez tout ce monde avec vous ou il n'y a que vous deux pour le spectacle à Adélaïde?
Et non. Alors, il n'y a pas tout ce monde, mais une bonne partie de ce monde est avec nous. Ici, à Adélaïde, nous sommes 16 personnes à être venues de France.
Wow.
Pour faire le montage pendant 5 jours. Et la première représentation aura lieu jeudi 4 juillet. Et donc, je disais, nous sommes 16. 15 personnes feront l'allumage et une parmi nous est musicienne, une personne est musicienne. Et jouera de la musique en live pendant 3 heures, pendant la durée totale de l'installation.
3 heures de spectacle. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Parce que je crois que c'est un spectacle quand même qui est ouvert à tous âges.
Oui, absolument, oui. Tout le monde peut venir. C'est à partir de 18h jusqu'à 21h et il n'y a pas de début ni de fin. On peut venir à n'importe quel moment, c'est une installation, donc c'est en continu.
Et il fait quand même froid à ce moment-là, donc il faut que le public vienne équipé pour en fait ce genre de spectacle. Et j'ai encore une petite phrase qui m'a frappé dans l'une des revues de vos productions, et on vous décrit comme des princes du bitume, des génies de la bidouille, qui manient autant la poésie que la clé à la molette.
Oui. Oui, c'est vrai, parce que on fabrique nous-mêmes nos machines et on laisse volontairement notre matériel qui est en fer dehors, donc tout est rouillé. Donc on a vraiment l'impression d'un matériel presque un peu défectueux, un peu usé, etc. Et en fait, toute la magie existe au moment où il y a les flammes. Et évidemment, c'est de la bidouille, mais de la bidouille de très grande qualité et safe, comme on dit chez vous.
Ouais. C'est votre première fois à Adélaïde. Je sais que vous avez parcouru le monde entier. J'ai vu des revues. Vous avez fait le Vietnam, le Mali. Vous avez été un peu partout. C'est la première fois à Adélaïde ou vous y avez été déjà?
On est venu plusieurs fois pour le WOMA d'Adélaïde.
Oui.
Et en 2020, on a fait dans le Botanic Garden, au même endroit, une grosse installation de feu pour le Adélaïde Festival. Chaque fois, on se réadapte suivant l'endroit.
Oui.
On réécrit un spectacle dans chaque lieu différent. Là, on a essayé justement de pas faire la même chose que la dernière fois. Donc, on n'utilise pas la même partie du Botanic Garden. Et on a amené des nouvelles structures, dont certaines sont plus spécifiques à l'hiver, justement. C'est la première fois qu'on vient en Australie en hiver.
Oui.
Donc, on a amené des chaises et des bancs, par exemple, qui chauffent. Ils sont transformés en radiateurs. Donc, quand on pose ses fesses dessus, on est autour.
Ok, comme les sièges chauffants dans les voitures ou
oui, mais un peu plus fait de façon différente, mais c'est un peu ça.
Est-ce que le public s'y attend ou il y a un élément surprise?
Oh, il peut y avoir un élément surprise, oui.
Il peut y avoir un élément surprise, mais bon, après, en général, les gens quand ils se mettent dessus, ils veulent plus laisser leur place aux autres.
Ah, oh, je comprends, en hiver, s'il fait froid. Donc, spectacle de 3 heures, et il y a une histoire que vous racontez. Vous avez dit que le public peut assister, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. À tout moment, on peut sauter dedans en plein milieu. Mais il y a quand même une histoire derrière.
Il n'y a pas réellement d'histoire. Ce qu'on aime, c'est que les gens se racontent eux-mêmes leur histoire, que chacun fabrique son histoire. Comme il n'y a pas de sens de visite, les gens peuvent aller où ils veulent, donc ils ont leur propre cheminement, leur propre histoire. Nous derrière, il n'y a pas de sens caché. Nous, à la compagnie, chacun a son histoire par rapport au feu.
Ouais.
On essaye de mettre en commun cette histoire pour fabriquer des choses et pour créer des spectacles ensemble, mais après, on laisse libre le public sur son interprétation et sur sa perception des choses. Le feu est en accès libre, mais il peut pas. Il y a quelques machines que nous on manipule, mais le public ne peut pas manipuler.
Ah oui, d'accord. Pour des raisons de sécurité ou tout simplement.
Oui, pour des raisons de sécurité évidentes.
D'accord. Ouais. Ou c'est conçu spécialement pour un pays où les poursuites en justice sont si rapides.
Non, c'est conçu comme autre concept. Et nous, on travaille ici à Adélaïde avec Ian Scobby.
Oui.
Qui est un grand producteur australien et qui connaît très bien notre travail et qui accepte notre concept sans y toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection particulière parce qu'on est en Australie ou la seule chose particulière, c'est qu'on s'adapte par rapport au Botanic Garden. Les plantes ne sont pas les mêmes, le lieu n'est pas le même qu'ailleurs. Donc voilà. On s'adapte par rapport à ça, mais le concept reste intact.
Vous nous avez donné quelques dates. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces dates? Et
il y a une première tournée 4, 5, 6, 7.
Oui.
Et ensuite, il y a une deuxième 11, 12, 13, 14. Et après, du 18, 19, 20, 21. Voilà. Il y a 3 fois 4 dates.
Ce sont des dates consécutives tout le long du mois de juillet.
C'est ça, exactement. Les 3 week-ends à partir du jeudi, quoi. les trois premiers week-ends à partir du jeudi.
Et est-ce que vous allez vous limiter à Adélaïde ou vous allez à...
Cette fois-ci, oui, là, on a la date que d'Adélaïde. Mais en octobre dernier, nous étions à Perth et on a joué à Melbourne. On a fait Brisbane, mais on a fait que le montage et le spectacle avait été annulé. C'était juste quand il y a les grands incendies en 2019 qui ont démarré.
Ah, d'accord. Donc, ce serait l'occasion de reprendre contact avec la ville de Brisbane qui adore les grands spectacles et Sydney. Sydney, ce serait spectaculaire de pouvoir avoir un spectacle pareil. Ils ont quand même beaucoup d'espace
qui correspondrait à Sydney.
Et avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un message pour nos auditeurs ou quelque chose que vous voulez vraiment apporter à la connaissance de notre public?
On espère que les gens vont venir nombreux et puis prendront du plaisir et passeront un moment très agréable dans l'installation. Nous, on fait en sorte que les gens passent un moment apaisant et poétique, qu'ils passent un bon moment, donc voilà.
Christophe Brichteau et Christian Cuomot de la compagnie Carabosse, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre prochaine participation dans Illuminate Adelaide à partir du 4 juillet. Vous allez vous produire pendant 4 week-ends tout le long du mois de juillet. Merci beaucoup de votre participation à notre programme aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et c'était Ti Paradis, une chanson des frères Timal. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 2 juillet. Un nouveau rapport révèle des liens inquiétants entre la violence domestique et le filicide. Et en France, mobilisation pour faire barrage à l'extrême droite après le succès inédit du Rassemblement national aux législatives anticipées. La Cour suprême des États-Unis accorde l'immunité à Donald Trump et les anciens présidents américains. C'est tout pour cette édition. Prochain rendez-vous, jeudi, même heure. Merci de votre compagnie et bon après-midi. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.